Gauan entzuleak, gaurko kanpoko mintzaldian, erran bezala Eskualeriko Laborantza Ganbaran duela zonbait aste horai iraganden mintzaldi bat segituko dugu Carlo Pietrirekin. Carlo Pietri, italiatik etorria eta berezikiago Slow Food eta Terra Madre elkarteetaz hariko zauku, baita ere orokorkiago oraino laborantza eta elikaduraz. Goazen Eskualeriko Laborantza Ganbarat, Carlo Pietriren entzuterat.
Je m'excuse avec vous si je ne parle pas bien le français et si je ne parle pas du tout le basque, mais je préfère parler un français un petit peu italien que la tradition qu'il prend de trop de temps et ne va pas bien, il ne donne pas la passion de l'esprit. Alors, je suis très heureux d'être ici et avant tout, je suis obligé à présenter l'association et le mouvement Slow Food. Le mouvement Slow Food, il est né dans le 1989 après une réaction qui nous avons facilité en Italie pour la naissance dans la ville de Rome de une McDonald's qu'il est un contresens pour l'architecture de la ville de Rome. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont protesté pour ça. Et alors, le mouvement, il est né comme un mouvement gastronomique contre l'homologation du fast-food. Le fast-food, il aime utiliser les mêmes produits et les mêmes idées de gastronomie. Et Slow Food, quand il est né pour réaction contre l'homologation culturelle d'une seule gastronomie, que c'est la gastronomie de Nord-Amérique. C'est-à-dire que pour nous, dans ces périodes-là, c'est très important valorifier la diversité culturelle de chaque gastronomie du monde. Après ça, à moitié des années 90, le mouvement il a commencé à réfléchir sur une situation très grave que c'est la perte de biodiversité sur le front de espèces génétiques de fruits, de verdures et de races animaux. C'est-à-dire qu'au moment qu'il est né avec un esprit gastronomique, il ne peut pas être insensible à une situation de progressive diminution de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de gastronomie si tous les jours nous allons perdre des espèces, des fruits, des verdures, des races animaux. C'est pour ça que nous avons commencé à travailler avec beaucoup de paysans et des artisans en Italie pour défendre les produits qui sont menacés d'disparition. Cette idée, il a trouvé beaucoup d'intérêt dans d'autres parts du monde et doucement, lentement, le mouvement il a commencé à être connu, pas seulement en Italie, en Europe, dans les États-Unis et d'autres continents du monde. La situation de la perte de la biodiversité, il est devenu la bataille principale contre ça, la bataille principale de Slow Food. Et c'est dans ce moment-là que nous avons compris que la responsabilité de cette situation, c'est un système alimentaire que tous les jours que nous allons à connaître de manière plus intensive, nous avons compris que c'est un système alimentaire criminel. Parce que ce système alimentaire qui gouverne tout le monde, tout le monde, que c'est similaire dans toute la planète. C'est un système alimentaire qui privilège les races fortes, qui privilège l'agriculture intensive, qui privilège la massification et qui va détruire la diversité et l'histoire de beaucoup de communautés dans le monde. Alors, c'est pour ça que toute l'association il est devenu toujours plus responsable sur cette question et il a commencé à travailler avec les producteurs pour supérer une situation qui nous avons jamais retenue valide. C'est-à-dire que par une part, il a les producteurs et par l'autre part, les consommateurs. Alors, la situation, maintenant, on ne peut pas être, on peut pas avoir une vision comme ça. Pour une question très simple. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Italie, les 50% des Italiens sont paysans. 50%. Maintenant, les paysans en Italie sont moins de 3%. Et plus de la moitié des 3%, il a plus de 65 ans. C'est-à-dire que nous n'allons pas manger les ordinateurs ou d'autres choses. Nous avons besoin de renforcer un système agricole et il n'est pas seulement qu'ils sont les 3%, les paysans. Ils sont les 3%, mais ils sont une part qu'il travaille pour une agriculture intensive, pour une agriculture massive. Et la part plus petite, les petits producteurs qui sont toujours menacés parce qu'il n'a pas, une aide de la part de l'institution. Et dans le même temps, il doit travailler sans avoir l'argent. En Italie, on paye les carottes 9 centimes par kilo, 32 centimes le lait pour les producteurs de lait. C'est impossible d'avoir un futur de l'agriculture avec une vision comme ça. Alors, dans cette période, Slow Food a commencé à, pour défendre la biodiversité, à utiliser une métaphore qui c'est l'arche du goût. Nous sommes en présence d'un diluvio, comme se dit, un déluge universel, le déluge universel. Alors nous devons construire une arche et faire une manière que les produits doivent être sauvegardés contre l'extinction. Et nous avons commencé à faire un catalogue de tous les produits qui sont importants pour la culture alimentaire italienne, pour la culture italienne, pour l'histoire de notre pays. Et pas seulement de notre pays. Nous devons dire à tout le monde que ces produits, ils ne doivent pas décomparir. Et la bataille de Slow Food, c'est de défendre cet produit contre la disparition. Mais il n'est pas suffisant d'énoncer qu'un produit il est menacé de décomparir. Nous devons travailler pour permettre à les producteurs de pouvoir à continuer à faire son travail. Alors, dans les 1998, nous avons l'idée des sentinelles. Les sentinelles, c'est une forme de défense pour donner à les producteurs une manière différente, parce que chaque produit il a des différentes approches, une aide pour faire connaître les produits, pour commercialiser les produits, pour transmettre le savoir-faire dans les anciens à les jeunes. C'est les sentinelles, c'est une manière active pour permettre à les produits qui sont menacés d'extinction ou qui ne sont pas valorisés par une économie mauvaise, d'avoir une prospective. C'est les choses que nous avons fait avant l'an 2000 et qu'il a trouvé attention, pas seulement en Italie, mais en diverses parts de l'Europe et diverses parts du monde. Quand il est venu le changement fort de notre mouvement, il est venu dans les premières années 2000, quand nous avons construit la unique université au monde des sciences gastronomiques. Et la notre université, maintenant, il a 8 ans, il a déjà diplômé plus de 2000 jeunes de 70 pays du monde. C'est une petite université avec 500 étudiants qui travaillent l'étude des sciences gastronomiques. Mais il est très important que j'explique à vous qu'est-ce que c'est la gastronomie, parce que tout le monde, où je vais à parler de gastronomie, tout le monde pense que la gastronomie, c'est cet exercice ludique, non, du plaisir gastronomique que vous voulez vous regarder à la télévision. Toutes les télévisions du monde, aussi dans les pays pauvres, à quelqu'un heure de jour, de la nuit, de la soirée, tu allumes la télévision, il y a quelqu'un avec une padella, comment se dit la padella? Une casserole qu'il parle. C'est ça, c'est pas la gastronomie. C'est ça, c'est une part de la gastronomie. Nous voulons dire les 10%, 10-15%, stop. Si le monde il pense que c'est ça, c'est tout la gastronomie, ce monde, il est une erreur. Si nous retenons que tout ça, c'est la gastronomie, nous avons pas l'idée claire. On peut devenir une forme de pornographie alimentaire. Non. La gastronomie, c'est une science complexe et multidisciplinaire. Et c'est ça, c'est pas Carlo Petrini qui l'a dit ça. C'est une des pères de la gastronomie moderne, qui c'est un Français, il s'appelle Jean-Anthelme Briand-Savarin, que la France pense qu'il a écrit seulement des petits mots, de l'aphorisme. Non, qu'est-ce qu'elle a dit, Briand-Savarin? Des aphorismes. Non. Le livre de Briand-Savarin, qui c'est La physiologie du goût, il était écrit dans le 1825. À la méditation troisième, Briand-Savarin demande qu'est-ce que c'est la gastronomie? Et la réponse est la gastronomie, c'est tout les choses qu'ils sont des compétences de l'homme quand il mange. Tout. Et commence à dire, la gastronomie, c'est agronomie, zootechnie. La gastronomie, c'est physique et chimique. Parce que quand nous allons à couper les produits de la terre ou à utiliser le feu, nous allons à faire un process physique-chimique. C'est très important. Et après, il dit que la gastronomie, c'est biologie. Et il dit que la gastronomie, c'est génétique. Après cette part scientifique, Briand-Savarin, il passe à la part humaniste. Alors, il dit que la gastronomie, c'est histoire. La gastronomie, c'est anthropologie. La gastronomie, c'est économie. La gastronomie, c'est économie politique. 1825. Et tous les Français, ils parlent de l'aphorisme. Briand-Savarin, il a dit que la gastronomie, c'est économie politique. Et c'est ça, c'est vrai, parce que dans l'histoire de l'humanité, tous les conflits entre les nations, ils ont été réalisés pour la conquête de la terre. C'est nous, on pouvait conquérir la terre, tu vas à commander les ventres de l'homme. Le pouvoir, c'est commander les ventres de l'homme. C'est ça, c'est l'histoire. C'est ça, c'est la gastronomie. Maintenant, il n'a plus besoin de conquérir la terre. Maintenant, la nouvelle économie politique, il demande d'être propriétaire de la semence. 80% de la semence dans le monde sont en main de 5 multinationales. 5. De qui je parle? Je parle de gastronomie, hein? On parle de gastronomie. Économie politique qui devient gastronomie. Parce qu'être propriétaire de 80% des semences, c'est une forme d'économie politique très dure qui va conditionner la gastronomie mondiale. Et maintenant, pour les communautés, pour les paysans, pour les peuples, il a seulement 20% qui est libre. Le jour que cette 20% il devient aussi propriété de la multinationale, nous avons terminé. Il n'existe pas plus la possibilité de libérer les peuples et aussi les paysans et aussi d'avoir une indépendance. Vous savez que beaucoup de personnes, ils vont acheter cette semence, non? Il va utiliser les semences. Après, il veut faire les choses que pour 10 000 ans, les paysans, il a fait, prendre les semences de cette fruit. Et s'il va planter cette semence, il a rien. C'est ça, c'est le pouvoir. C'est ça, c'est le pouvoir politique. C'est ça, c'est l'économie politique. C'est ça, c'est la gastronomie. Et c'est ça, c'est les choses qu'étudent les notre étudiant. Et je m'en fous. C'est tout le gourmet et les gourmands. On parle de la gastronomie d'une manière stupide. Seulement, oh, que belle, oh, très jolie, très bonne. Ouais. Et dans le même temps, nous n'avons pas plus la propriété des semences. Nous avons la perte de biodiversité. Nous avons un désastre alimentaire. Et la situation des paysans, c'est désastreuse. C'est ça, c'est la chose que le notre mouvement, il a compris. Alors, la question que nous avons voulu réaliser à travers la notre université, c'est de permettre que beaucoup de gens de tout le monde, ils peuvent étudier cette vision holistique, complexe de la gastronomie. La même année, le 2004, Slow Food, il a réalisé la naissance d'un réseau, international qui s'appelle Terra Madre. 2004, quand j'ai parlé de cette idée à mon collaborateur, tout le monde l'a dit, Carlo, il est devenu le fou complet. Parce que j'ai dit qu'il est très important de réaliser un rendez-vous mondial de paysans, des pêcheurs, des nomades, des artisans alimentaires à travers les communautés que nous avons dénominées communautés de la nourriture. Les communautés de la nourriture, ils sont, comme je l'ai dit, paysans, pêcheurs, nomades, artisans, mais aussi éducateurs. Beaucoup d'éducateurs qui aillent vers des jardins potagers dans l'école sont toutes communautés de la nourriture qui aiment travailler pour la sauvegarde de la culture alimentaire. Et dans le 2004, nous avons réalisé le premier rendez-vous de Terra Madre avec 5 000 délégués des 110-120 pays du monde. Maintenant, la réseau, que chaque 2 ans, il va retrouver, et il a quelqu'un ici dans cette salle qui est venu à Terra Madre, La réserve, maintenant, il est présent en 170 pays du monde. Alors, vous comprenez qu'un mouvement qui est né avec un concept de vieille gastronomie et qu'il a changé sa vision, pas seulement de la gastronomie, mais aussi de la bataille politique que nous devons faire contre ce système alimentaire, il a l'opportunité avec cette réserve de connaître les différences, de connaître la violence de ce système alimentaire, qu'il s'exprime de manière très différente. Maintenant, vous savez la situation qu'il a dans notre Europe, mais il est beaucoup, beaucoup plus tragique que ce que nous allons à constater maintenant dans les pays de l'Afrique, où le phénomène de land grabbing, qui signifie prendre la terre avec la responsabilité d'États comme la Chine, comme l'Inde, comme les Émirats arabes et comme les multinationales, qu'il va prendre la terre à les Africains. Et les Africains, il n'a pas le catastre napoléonico. Il n'a pas la propriété de la terre écrite sur des papiers. La terre en Afrique, c'est l'utilise de la terre, c'est une chose traditionnelle qui est passée de père en fils pour différentes générations. Alors, avec la complicité des gouvernements canailles, avec des politiques qui sont, comment se dit, ladri, voleur, il va acheter la terre, il va faire des contrats de location pour un siècle. Le résultat, on regarde pas nous. Non, le résultat, on regarde nous. Oui, qu'ils regardent nous. Parce que les jeunes, qui n'ont pas plus la terre pour travailler, qui n'ont pas plus la possibilité de la subsistance, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en Europe. Alors, il va traverser, si l'Afrique subsaharienne, il doit traverser les déserts du Sahara. Et nous n'avons pas la comptabilité du mort dans les déserts du Sahara. Et quand il a traversé les déserts du Sahara, il arrive dans la mer, dans la Méditerranée. Et alors nous avons la comptabilité des morts dans la Méditerranée. Chaque jour à la télévision, nous allons regarder des bateaux, des petits bateaux, avec des personnes, des jeunes, de mères, de pères qui vont mourir. Pour traverser les... C'est ça, c'est une chose qui n'intéresse pas. Oui, que ça intéresse. Intéresse beaucoup. Parce qu'il a des forces politiques. En Italie, maintenant, il est devenu minorance. Mais il était pour beaucoup de temps majorité. Une force politique qui s'appelle Lega Nord, qui veut combattre les Africains. Mais l'agriculture italienne, il doit remercier beaucoup les Africains. Parce que dans le sud d'Italie, la récolte de tomates, il est fait à travers les Africains qui sont traités comme des esclaves. Des esclaves. C'est ça que... On parle de quoi? De l'économie africaine? Non, on parle de l'économie italienne. Et ce problème, il ne regarde pas seulement l'Italie, il regarde beaucoup d'autres pays de la Méditerranée. Nous, Italiens, nous avons la mémoire courte. Parce qu'au début de l'autre siècle, ils sont les émigrants italiens qui sont morts dans les mers méditerranéennes pour aller en Amérique. Ils sont morts beaucoup, beaucoup des Italiens. Quand le bateau il est tombé à front de la côte de l'Espagne. Alors, Terra Madre, il a fait comprendre à nous qu'un mouvement international comme Slow Food, il doit avoir la sensibilité de comprendre les différentes questions que dans chaque part du monde, il est au centre de la question alimentaire. La question alimentaire, il est devenu le centre de la politique. Et la souveraineté alimentaire, c'est un objectif qui ne regarde pas seulement notre pays, il regarde tous les pays du monde. Cet système alimentaire, je n'ai pas besoin de dire à vous que vous connaissez très bien, il est responsable d'un désastre environnemental parce que nous allons perdre la fertilité du sol, nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes de perte de biodiversité. Tout ça, c'est la responsabilité de ça, c'est un système alimentaire qui privilégie la production massive, qui privilégie une utilisation de les ressources naturelles de manière vulgaire, comme se dit. Les personnes, ils pensent que les ressources de la Terre Madre sont infinies. Nous pouvons utiliser tout l'eau qui est possible. Nous pouvons donner à la Terre beaucoup, beaucoup de chimiques parce qu'elle doit produire de manière intensive. Mais cet système alimentaire, maintenant, il démontre qu'il n'est pas durable. Mais pas seulement durable, c'est criminel, criminel. La perte de biodiversité. Au début de 1900, ils sont passés 112 ans. L'humanité, il a perdu les 75% de la biodiversité. Mais vous pouvez imaginer qu'est-ce qui signifie que 75%. C'est une chose incroyable. Et nous ne pouvons pas avoir cette impression, seulement pour une chose, que la notre vie, c'est trop brève. Si nous avons 112 ans, si nous pouvons avoir 120 ans, nous allons regarder le désastre qui est venu. J'ai 73 ans, mais je recorde, quand je suis enfant, que nous allons apprendre les pêches de la vigne. Les pêches de la vigne, fantastiques, buonissime. Io saltavo i muretti per andare a prendere le pesche della vigna. Capito? Ecco. Maintenant, il n'esiste pas plus le pesce della vigna. Le pesce della vigna non esiste pas plus. Perché non va pas bien per aller al supermarché. Quand la pesce della vigna il est touché comme ça, il change les couleurs. Esthétiquement, il est impresentable. Alors, il est mieux qu'il arrive les pêches de la Californie, merveilleuses. Mais quand tu manges les pêches, c'est le bois. Il n'a pas le même goût. C'est un désastre. Et nous pouvons continuer une chose comme ça. Parce que les 30%, en Allemagne, les 30% de la production biologique, il est jeté dans le compost. Dans le compost, 30%. Et après, tout le monde dit, oh, mais le biologique, il est cher. Et lui, oui, c'est cher. S'il est obligé, le paysan, à prendre les produits et jeter dans le compost. Pourquoi la grande distribution, c'est la carotte, il n'est pas parfait, il ne va pas bien. C'est le cetriolo, io non so come si dice cetriolo. Ecco, è storto? Ah, no, 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 no! C'est la patate et la petite tubercole, non, ça va pas bien. C'est ça, c'est la folie. C'est la folie. et j'ai apprécié beaucoup les jeunes de Slow Food de Berlin, qui il a organisé devant le Parlement d'Allemagne, le Bundestag. Il a organisé une manifestation où ils sont allés apprendre tout cet produit esthétiquement pas belle, non, mais qu'il a les propriétés nutritives comme les autres. Et devant le Parlement, il a épluché, non, et avec l'aide des quatre grands chefs sur la place d'avant à le Bundestag, il a fait à manger pour 2000 personnes. C'est ça, c'est la gastronomie. La gastronomie, c'est pas l'exercice très, très joyeux de le stupide. Non. La gastronomie, elle peut devenir une forme de lutte. Nous devons lutter de cette manière pour faire comprendre à qui? À les parlementaires, à l'intérieur du Parlement, à les citoyens au dehors, que cette réalité, c'est la folie. Et la folie, il a les choses plus belles pour démontrer que cette système alimentaire, il est criminel. La chose plus incroyable. La FAO, ils disent que maintenant, aujourd'hui, nous allons à produire la nourriture pour 12 milliards de personnes. Aujourd'hui, nous, maintenant, sur la planète, nous sommes 7 milliards. 1 milliard ne mange pas. Qu'est-ce que veut dire? Ça veut dire qu'à peu près de 50% de la production alimentaire, il est jeté dans la poubelle, il est gaspillage. C'est ça, c'est la folie. C'est la folie totale. Pensez, si nous pouvons parler, les personnes de mon âge, les jeunes, si nous pouvons parler pour un moment avec notre grand-père, qu'il est mort dans beaucoup de temps, hein, et dire, tu sais, grand-père, que je vive dans un pays où on ne paye plus pour démagrir que pour manger. Mais grand-père, il dit, moi, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis? C'est la folie. Non. En Italie, en France, en Allemagne, nous allons à payer plus pour démagrir que pour manger. Alors, La situation, c'est ça. Et tout le monde, on parle seulement de le prix des produits alimentaires, pas de valeur. C'est ça, c'est une question fondamentale. Nous avons perdu le concept valorial de la nourriture. Il est très différent, le prix, dans les valeurs. Tout le monde, il parle seulement de prix. Quel est le prix? Non. Quelle est la valeur? La valeur, c'est plus important que le prix. Si tu donnes valeur à une chose, le prix, il arrive après. Maintenant, dans toute la notre civilité, dans toute la notre société, nous avons perdu la valeur de la nourriture. Je me souviens, ma grand-mère, à la fin du repas, raccoglieva les briciole del pane. Dans les méridions d'Italie, quand le pain il tombait par terre, elle prenait le pain et s'y baciava. Le respect pour la nourriture. Maintenant, non. Chaque Européenne, il n'intéresse pas s'il a 100 ans ou s'il est né hier. La statistique fonctionne comme ça. Chaque Européen, il a à disposition 820 kilos de nourriture par an. Tu savais que tu as 820 kilos par an? Tu ne savais pas. 820 kilos à tête. Mais nous mangeons 500 kilos. Chacun de nous, il prend 320 kilos dans la poubelle. De 320 kilos, 200 trains, ils sont détruits pour une distribution qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai dit? La grande distribution, il ne veut pas les choses, il ne fonctionne pas la distribution. Mais 90 kilos, ils meurent dans notre frigo de chacune européenne. Hein. Alors, ce soir, quand vous retournez à la maison, ouvrez le frigo et regardez quelle tombe de famille que nous avons dans la maison. Qu'il a des persis qu'il demande, « Oh, pour favor, c'est 20 jours que je suis dans le frigo, fais quelque chose !» Fais quelque chose. Des vases de compost ou une légère mouffe, piccola. Légère. Et chaque jour, il va augmenter et il passe directement dans le frigo à la poubelle. C'est ça, c'est la folie. C'est la folie. Alors, j'arrive à la situation et j'arrive à le plaisir d'être ici à parler avec vous, avec votre mouvement, avec votre association, pour expliquer que le food, il aime devenir un sujet pour défendre la petite agriculture, pour défendre la civilité européenne qui est basée sur l'agriculture et sur la culture paysanne. Il est très important de considérer que dans ce moment, tout le monde il est en présence d'une crise particulière. C'est ça, ce n'est pas une crise linéaire. Qu'il pense que c'est ça, c'est une crise normale, il n'a pas raison. Ce n'est pas Carlo Petrini qui l'a, il a beaucoup de personnes, d'économistes, de premiers Nobel, qui dit que c'est ça, c'est une crise de système. C'est une crise entropique. Je vais expliquer ce concept de crise entropique appliqué à la nourriture. Vous savez que, par exemple, nous allons produire la nourriture. La nourriture, c'est énergie pour la vie. Alors, si je vais à produire viande, lait, verdure, cette nourriture, il me donne 100 d'énergie. Si pour produire 100 d'énergie, je consomme 400 d'énergie, un an, deux ans, 10 ans, il arrive la crise anthropique. C'est ça, dans ce moment, nous sommes en présence d'une crise anthropique. Toute la société, il a utilisé plus énergie de ce qu'il a produit. Et au niveau de la question alimentaire, la question alimentaire, il est devenu une chose incroyable. Parce que le 50% qu'il va dans la poubelle, c'est énergie que nous avons utilisée, que nous avons demandé à notre terre, que nous avons consommée. Pour produire le ça. Alors, qu'est-ce que dit les étudiants d'économie en présence d'une crise entropique? Il doit changer les paradigmes. Les anciens paradigmes, il doit changer. Quels sont les anciens paradigmes? Les anciens paradigmes que, pour sortir de la crise, il est nécessaire de consommer. Tu dois augmenter le consomme. Parce que si tu retournes à consommer en plus, l'économie en départ. Non, 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 il est fini. Il est fini. Il est être consommateur passif qui compre toujours. Non, 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 c'est terminé. Nous n'avons pas plus l'argent pour acheter. Le nouveau paradigme, il a d'autres idées. Première chose, combattre dans toutes les manières le gaspillage. Le gaspillage, il doit être la question principale, nous ne pouvons pas vivre dans un monde où il y a un gaspillage comme ça. C'est-à-dire que nous allons de gaspillage maintenant par année au niveau mondial 1,3 milliard de tonnes de nourriture. C'est-à-dire qu'on peut manger toute l'Europe. Nous ne pouvons pas permettre une chose comme ça. Dans le même temps que beaucoup part du monde, chaque heure, il va mourir deux enfants. Deux enfants, chaque heure, il va mourir pour la famine. Alors, le gaspillage, c'est la première frontière, le premier paradigme que nous devons fermer dans toutes les manières. Pas seulement avec la politique, avec une dimension éthique personnelle. Tous ensemble. Deuxième, pour faire ça, il est arrivé le moment de refuser la concession que le monde il est séparé, je parle au niveau de production alimentaire, dans le producteur par un côté et le consommateur de l'autre côté. Non, non. Le consommateur, il doit devenir coproducteur. Qu'est-ce que signifie que coproducteur? Le consommateur, il doit connaître bien, il doit comprendre qu'est-ce qu'il va acheter. Manger, c'est le premier acte agricole. Le premier acte agricole, c'est manger. Parce que si je mange le produit d'une ferme, d'une jeune qui travaille avec une méthode qui respecte les environnements, non, local, j'aide un type d'agriculture. Si je veux manger un produit massif de production qui détruit les environnements, j'aide un autre type d'agriculture. C'est-à-dire que la choix que le coproducteur il doit réaliser, il est une choix politique. Et la choix, il a besoin d'avoir communication, éducation, information. Plus possible. Et dans le même temps, pas considérer les producteurs comme une contrepart. Non, non, non. Nous sommes tous dans la même situation. La notre terre mère, il a un concept fondamental. Que c'est la terre, c'est la notre mère, la fraternité, c'est la dimension correcte que nous devons avoir entre nous. Et je ne suis pas un paysan, mais j'ai à cœur la question du paysan, parce que j'ai à cœur la question alimentaire. Et la question alimentaire, c'est la vie. Qu'il ne mange pas. Nous sommes vivants parce que mangeons. Hein. La chose plus importante, regardez, je veux dire une chose. Je ne suis pas religieuse, je suis agnostique. Je ne crois pas. Je suis agnostique. Mais si un jour je dois croire en Dieu, je vous explique pourquoi. Vous savez pourquoi? S'il existe un Dieu, la chose plus belle qu'il a fait, plus belle, hein, c'est qu'il a donné le plaisir, godimento, come si dice, jouissance, à l'unique deux fonctions qu'il permet la continuation de l'homme. Manger et faire l'amour. Fantastique, hein. Si, il a des personnes qui a plaisir à travailler, mais il est malade. Il est sûr qu'il est malade. Non? Les deux choses qui donnent godimento, plaisir, mangiare et fare l'amore. Et l'humanité, il va avant parce qu'il mange et il fait l'amour. Prouvez à fermer, à manger. Terminé. Prouvez à fermer, faire l'amour. Terminé l'homme. Alors, nous devons porter la question alimentaire au niveau fort de cohésion sociale. la cohésion sociale, c'est ça. S'il est vrai comme il est vrai que dans la notre Europe, les paysans sont une minorité qu'il a déjà perdue au niveau des statistiques, nous devons permettre une cohésion sociale que les batailles de paysans ils deviennent aussi les batailles des citoyens pour combattre, pour renforcer un nouveau concept de la politique européenne. Pour combattre un concept de politique qu'ils pensent que le monde c'est seulement un monde industriel massif et les choses plus importantes c'est le prodotto interno lordo comme si dit en français bon pile ouais. Nous devons changer cette vision et pour faire ça nous avons besoin de reconstruire une nouvelle cohésion sociale jamais plus les paysans d'une part et les citoyens de l'autre. Il a différentes situations, mais c'est nous travaillons pour la cohésion sociale. C'est ça, c'est le travail de Slow Food et c'est ça, c'est le travail de Terra Madre. Je pense que nous, que la notre idée de construire cette cohésion sociale, c'est une idée juste. Dans cette période historique, parce que la crise, c'est une crise très forte et nous ne devons pas permettre que les personnes qui n'ont pas la force de contracter au niveau politique les choses de la terre, ils restent tout seuls. Alors, c'est pour ça que nous allons travailler pour construire cette connexion de producteurs et des coproducteurs. Merci de votre attention et excusez mon français qui est un peu particulier, non? Mais vous avez compris, non?
Egiten dugu oraino zonbait minutaz Carlo Pietrirekin publikotik egin diren zonbait galdereri erantzuten baitzuen.
Le notre mouvement en France, il est pas fort comme autre part du monde. Et je pense pas que la France, il a déjà beaucoup d'associations qui travaillent très bien, comme les AMAP, comme vous ici, que vous avez fait des choses fantastiques. Mais j'ai l'impression que les prochaines années, le rapport de Slow Food avec les différentes associations aussi en France, on va à renforcer parce que pour première chose, nous avons une dimension internationale qui peut aider le travail de beaucoup de paysans. Et l'encontre planétaire, au niveau planétaire. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin de renforcer une politique informative et éducative. Cette année, en Italie, nous avons ouvert plus de 1000 jardins potagers dans l'école italienne. Et je sais qu'en France, ce mouvement, il va monter, mais nous avons besoin que toute l'Europe y retourne. Il va faciliter le retour à la terre et aider les jeunes qui veulent retourner à la terre. Maintenant, la situation, c'est un désastre. Alors, nous devons construire les conditions politiques contre le malbouffe, mais aussi contre une politique qu'il aide pas les jeunes à retourner à la terre. C'est ça, c'est une bataille très dure. Maintenant, c'est très intéressant de regarder la situation américaine des États-Unis. Parce que dans les États-Unis, ils sont arrivés à une situation plus désastreuse que nous. Pas maintenant, 10 ans avant. Mais maintenant, dans les États-Unis, on va redonner respect pour les nouveaux paysans qui sont des jeunes, qui sont qui va ouvrir des réalités productives, qui a des formes d'organisation de vente directe très fortes. Dans 1995, j'ai ouvert le premier marché paysan à Chicago. Et dans cette période, dans tous les États-Unis, ils sont 200 marchés paysans, 1995. Au début de 2000, ils sont devenus 800. À moitié 2005, déjà 3000. Maintenant, 2012, ils sont 12 000 farmer market, marchés paysans. Pas seulement dans les quartiers riches, aussi dans les quartiers de hispaniques. Il a changé une méthode de distribution dans le royaume où il est né, les fast-food et les supermarkets. 12 000. Ça, c'est intéressant. Hein? Quand j'y suis allé pour la première fois dans les États-Unis, dans tous les États-Unis, il a seulement deux bières. Deux bières. Budweiser et une autre bière. Maintenant, il a 4000 micro-birreries, petites birreries qu'il travaille. Il a déjà conquêté le 20% de la distribution de la bière. Et en Europe, aucune, c'est une chose comme ça. Regardez, dans le 2008, nous avons terminé Terra Madre, le rendez-vous. Et j'ai dit à tous les paysans, à tous les délégués de Terra Madre, quand vous retournez à votre pays, cherchez de construire des jardins potagers. Les jardins potagers dans l'école, c'est une méthode éducative très importante qui donne force aussi à les paysans. Quand un enfant, il aime utiliser la semence, il regarde le jardin potager, en ce moment, il devient une manière d'aider les paysans. Parce qu'il parle à sa mère, il dit « Maman, pourquoi tu comprends cette verdure qui n'est pas la saison ?» Les enfants, ils deviennent éducatifs de le papa et de la maman. Alors, j'ai dit à tous, Terra Madre, dans chaque pays du monde, vous allez créer des jardins potagers. Octobre 2008, dans le mois de janvier 2009, il m'a téléphoné la vice-présidente de Slow Food, qui est une chef très importante dans les États-Unis, qui s'appelle Alice Water. Il me téléphone et me dit « Carlo, j'ai parlé avec Michelle Obama et j'ai demandé à Michelle Obama d'ouvrir un jardin potager à la Maison Blanche. » Et j'ai dit « Ah, va bien, tu as déjà demandé à Hillary Clinton, mais il n'a fait rien. » Oh, dans le mois de mai 2009, Michelle Obama il a ouvert le jardin potager à la Maison Blanche. Il existe le jardin potager à l'Élysée? Dans le président de la République italienne, dans le président de la République, dans la régine d'Angleterre. Non. Parce que c'est ça, la politique européenne, ils pensent que c'est une chose utopiste, c'est une chose poétique. Ils ne comprennent pas qu'un acte politique très important, l'éducation alimentaire des jeunes et l'éducation alimentaire des enfants, ils partent par les jardins potagers. Alors je vous donne la dernière notice, que c'est la plus belle, fantastique. Slow Food à Pérou, il a travaillé avec des chefs péruens et il a demandé à la ministre sociale du Pérou d'ouvrir des jardins potagers. C'est possible que les prochains mois, dans le nouveau an, le gouvernement péruan il va ouvrir des jardins potagers en chaque école du Pérou. Alors, la vieille Europe, d'où est-ce que la vieille Europe? Ils dorment, la vieille Europe. C'est le père, il fait le jardin potager dans l'école. La vie, alors, il dorme. Et écoute-moi, quand vous dites qu'est-ce que nous faisons contre la malbouffe, la première chose à faire contre la malbouffe, c'est l'éducation. Éducation, éducation. Et les jardins potagers, c'est la première manière d'éducation. Et maintenant, les choses que nous allons construire après les jardins potagers, la dimension de la cantine de l'école. La cantine de l'école, il doit devenir un lieu éducatif. Pas donner à les grands multinationales qu'il fait les manger. Non. Retourner à une cantine où pas seulement les personnes qui travaillent, mais aussi les mamans qui peuvent venir, les grands-mères, les jeunes, reconstruire un rapport valorial avec la nourriture. Parce que les notre enfants ne sont pas des poulets, avec la canard. Non. Les enfants, ils doivent être respectés. Il a le droit de devenir un citoyen responsable. Pour permettre qu'il ait un citoyen responsable, nous devons reconstruire au niveau des enfants un rapport que ma génération a vécu. J'ai vu encore mon grand-père paysan. Maintenant, dans les grandes villes, les enfants, ils ne connaissent rien. Nous devons reconstruire un rapport avec la terre. Diversement, cet enfant, après 10 ans, il devient un consommateur qui aime peut aller à McDonald's, qui ne prend rien de la production agricole. C'est ça, la forme éducative, c'est très important. Nous avons terminé la première phase qui a été de construire 1000 jardins potagers. C'est une phase qui a duré pour à peu près 3 ans. Parce que nous avons travaillé avec des universités africaines, avec beaucoup de paysans africains, pour construire un petit réseau d'agronomes africains qui va à valoriser les semences autochtones. Et il est très dur, hein? Il était très dur parce que les universités africaines, ils sont complètement dépendants de la semence européenne. Mais nous avons fait ça. Nous avons ouvert des petits séminaires au Sénégal, au Kenya, au Ouganda, Éthiopie, Sud-Afrique, non? Et nous avons Maroc. Nous avons construit un groupe de agronomes qui travaillent avec les semences autochtones. Avec ça, nous avons relancé la bataille pour 10 000. Il n'est rien, hein, il n'est rien, 10 000 jardins potagers, mais il devient significatif parce que nous allons travailler avec les semences autochtones. Mais il y a une autre chose très importante que beaucoup de ONG ils pensent pas. Vous savez qu'est-ce que c'est les choses plus importantes maintenant pour réaliser cet jardin potager et l'autonomie alimentaire africaine? C'est la valorisation de la gastronomie locale. Le colonialisme, il a prétendu de détruire la gastronomie locale et de construire une gastronomie coloniale. Si vous allez en beaucoup de parts d'Afrique où il était le colonialisme français, vous trouvez la baguette. La baguette, La baguette, qui avec le calor, il devient comme ça. Non, si vous allez dans le colonialisme où était l'Angleterre, il a dominé avec le thé. Il n'existe pas le thé. Il a détruit tous les produits autochtones, qui sont les ignamis. Il a détruit la gastronomie locale, qui sont la gastronomie des de femmes africaines, qui pour beaucoup, beaucoup d'années, il a réalisé des plats fantastiques. Alors, la spécificité de Slow Food, c'est de respecter cette gastronomie. Alors, nous avons fait pour Burkina Faso, Sierra Leone, nous avons produit des livres de recettes autochtones et en cette manière, nous allons à développer une culture gastronomique locale avec les produits locaux, avec les semences locales. C'est un travail culturel. C'est une autre fois un travail culturel. Mais la satisfaction que nous avons avue dans cette Terra Madre que nous avons réalisée à la fin du mois d'octobre, c'est que toutes les communautés africaines qui sont venues, il a l'orgueil d'avoir à disposition sa propre gastronomie et de travailler pour son futur. Nous n'avons pas plus besoin de missionnaires. Les Italiens, les Français restent chez eux et qui sont les Africains les protagonistes du changement. Et à Terra Madre, nous avons fait une grand jardin potager africain, fantastique, pour faire comprendre que le futur de l'Afrique sera extraordinaire. Les jeunes Africains qui travaillent pour ça, ils ont une passion, une force extraordinaire. La chose qui donne beaucoup de préoccupations, qu'il va prendre terre à chez eux, que le land grabbing il est devenu massif. Maintenant, ils sont déjà vendus ou loués 80 millions d'hectares, c'est-à-dire une chose grande comme l'Allemagne. On doit fermer ça. Hein. La communauté internationale doit fermer ça. Il a besoin que tout le monde il va réagir. Parce que c'est une chose, c'est la nouvelle forme de colonialisme qui est plus violente que le colonialisme traditionnel. C'est beaucoup plus violent. Avant, nous avons une commissaire européenne, que c'est une madame danoise, totalement dédié à l'agriculture intensive et à l'industrie, totalement. Maintenant, nous avons un nouveau commissaire qui a à cœur la question des petits paysans, parce que la Roumanie, il est roumaine. La Roumanie, s'il va détruire les petits paysans en Roumanie, c'est foutu. Alors, il a ça. Mais dans le même temps, il est otage de le gouvernement des différents pays. Parce que vous savez que le commissaire, il est très important, la commission, elle est très importante, mais qui commande sont le ministre de l'agriculture de tous les 28 pays. Et alors, le travail de d'Acciancolo, c'est très difficile parce qu'il porte avant des idées, mais après, quand il va dans la réunion des ministres, il arrive le ministre danois, le ministre de beaucoup de pays, aussi de l'Est de l'Europe, qui n'a pas une vision comme nous. Et maintenant, nous avons un ministre italien qui est respectueux. Avant, nous avons un ministre italien qui est un désastre. C'est ça, c'est la situation. Nous avons une Europe qui n'est pas une Europe. Un hybride est un hybride. L'Europe est un hybride. Comme les canards pour faire le foie gras. Va bene? C'est un hybride. Et nous avons besoin de renforcer l'économie locale et dans le même temps, c'est ma idée, de construire une nouvelle Europe. Parce que c'est ça, c'est pas une Europe durable. Hein. Une Europe qui est au stade de la financiarisation, qu'elle dépende de la financiarisation. L'économie réelle ne compte rien. C'est ça, c'est un désastre. Alors, j'espère qu'il va changer, mais c'est Dacian Ciolo, nous avons besoin de Dacian Ciolo ici, en France, en Italie. Dacian Ciolo, tout seul, il fait qu'est-ce qu'il peut. La réponse, elle est claire, molto chiara. Mais je parle avec les jeunes, que vous êtes le futur. Alors, vous savez qu'au début du VIe siècle, un grand écrivain, il a écrit le premier livre, le premier roman de l'ère moderne. Les écrivains, ils s'appellent Michel Cervantes. Et il a écrit Don Quichotte. Don Quichotte. Alors, tout le monde il pense que Don Quichotte il a deux personnages, Don Quichotte et Sancho Panza. Non. Tous les deux personnages sont un désastre. Don Quichotte est visionnaire, complètement fou, contre le moulin à vent, non, complètement fou. Sancho Panza c'est un bonhomme, un pauvre homme. Qu'il n'a pas culture, qu'il est... Et tout le monde il pense à sept livres avec deux personnes distinctes. Alors je vous dis ça à vous jeunes qui êtes ici. Cervantes, il n'a pas pensé à deux personnes. Cervantes, quand il parle de Don Quichotte et Sancho Panza, il pense seulement à une personne. C'est-à-dire que vous, jeunes, doit être comme Don Quichotte et Sancho Panza ensemble. Être visionnaire, regarder, avoir des visions, vous n'avez pas peur de la vision. Et dans le même temps, Sancho Panza, pragmatisme, pied per terre. C'est ça, c'est les comment si dice augurio? Les souhaits que j'ai fait vous. Ecco, vous devez être Don Quichotte et Sancho Panza assieme, visionari e pragmatici. Così si vince. Solo visionari, vai, tu vedi, complètement fou. Totalement pragmatique, tu n'as pas la vision. Tous les deux choses ensemble. Va bene? Buonanotte.
Utziko dugu beraz mintzaldi eta elgarrizketa hori Carlo Pietrirekin egina izan dena Eskolerriko Laboratxa Ganbaran dola zonbait aste, zinez mintzaldi interesgarria eta bizitasunez betea. Milesker antolatzaileri eta ondoko aldi bat arte.